déjà eu une levée de boucliers, un tollé général chez des milliers de scientifiques dans le monde entier qui ont réagi très fortement, surtout aux États-Unis. Et ça, bien sûr, on n'en a pas parlé en France. Et ce sont parmi les meilleurs spécialistes du carbone 14 qui ont relevé sa non-fiabilité, avec des tas de résultats aberrants qu'ils ont rappelés depuis une quinzaine d'années et qui remplit les pages de la revue Radiocarbone, qui est la fameuse revue, la revue spécialisée en carbone 14. Et entre autres, on a relevé toutes les erreurs à propos des statues de l'île de Pâques dans le Pacifique, où on les a datées de je ne sais plus combien, plusieurs millénaires, et en fait ça datait d'il y a quelques siècles, etc. De l'homme de Lasso, je crois en Belgique, où on a daté aussi post-daté quelque chose qui datait de Jules César, enfin des tas d'erreurs toutes récentes, donc où une expertise du carbone 14 a été infirmée par les expertises suivantes. Alors en plus, ils ont démontré comment des quantités de facteurs...
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
comment des quantités de facteurs dans l'histoire du Saint-Suaire sont intervenus, qui sont précisément des facteurs qui modifient la teneur du carbone 14. N'est-ce pas? Comme par exemple l'incendie de Chambéry, etc. C'est précisément des trucs qui changent complètement.
Alors, par exemple, il y a eu deux incendies, je les ai quelques-uns d'entre vous. Un au 12e siècle, un au 15e siècle. Pour donner les exemples de l'incendie du 15e siècle, le Saint-Suaire était enfermé dans un coffret d'argent. Le coffret d'argent a fondu. Ça a soudé le coffret d'argent, ce qui prouve que le Saint-Suaire s'est trouvé à l'intérieur d'un coffret à 2000 degrés minimum de température, sous vide bien sûr, puisque de sorte qu'il y a un phénomène de catalyse qui a nécessairement introduit du carbone frais datant du 15e siècle en très 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 grande quantité sur le tissu, de sorte qu'avant même qu'on fasse l'analyse des laboratoires, les spécialistes du Saint-Suaire disaient que si on faisait au carbone 14, on trouverait nécessairement une date vers le 13e siècle. Ce qu'a confirmé, bien entendu, l'analyse des trois laboratoires. Et l'analyse des trois laboratoires qui aboutissent à une marge entre 220 et 290, je crois, vient donc confirmer tout ce qu'on savait jusque-là sur le Saint-Suaire. Et donc ça vient confirmer que c'est véritablement celui-là qui est le sphère du Christ, c'est le contraire même de ce qu'on dit à la télévision, ça le confirme au lieu de l'infirmer. C'est un truc à savoir, ces choses-là, hein, c'est évident.
En plus, si c'est vraiment comme un grand nombre de scientifiques américains l'ont pensé, l'espèce de flash de la résurrection sur le mode un petit peu des flashs nucléaires, forcément ça transforme complètement toutes les données possibles et imaginables. Alors, autre chose, ah mais mon papier est tombé là. Suite de la communication dans 30 secondes.
Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du flash nucléaire? Oui. Personne ne connaît? Il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du flash nucléaire? Oh là là là, c'est incroyable. Bon, je vous explique.
Attention.
L'équipe de chercheurs mondialement au top sommet concernant le décodage des images picturales à lumière diffuse.
Ah, je vais préciser ça.
Il a un papier, vite.
Oh, mais non, non, c'est la même chose.
Très bien.
On se complète. Non, parce qu'il vient faire allusion justement à toutes les expertises de la NASA. Pour rappeler ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu plus de 400 scientifiques qui ont dépensé 150 000 heures de travail scientifique sur le Saint-Suaire uniquement dans les labos de la NASA entre 76 et 80. Avec spectrométrie par fluorescence, sous rayon X, radiographie, thermographie aux infrarouges, spectroscopie sous ultraviolet, technologie de renforcement d'image, c'est ça ce que je voulais préciser, par ordinateur, macroscope, etc. Puis toutes les analyses microchimiques, les seules analyses microchimiques ont représenté 100 000 heures de chimistes, en plus des 150 000 heures ça faisait déjà 200 000 heures de travail en laboratoire. Avec le fameux analyseur d'image VP8.
Alors, je traduis. VP8 Analyzer, c'est un programme ordinateur. Pour ceux qui connaissent l'anglais, Vectorial Point Analyzer. Qui consiste justement, les gens de la NASA envoient, comme vous savez, des spoutniks autour des satellites, autour des planètes, si vous voulez. Alors ils envoient, et ils sont très intéressés de savoir quel est le relief de la planète en question. Ils prennent donc la photo, ils font venir leur satellite, qui prend des photos de la planète, qui se trouve donc, par exemple, supposons, n'est-ce pas, à 1 km au-dessus, ou 2 km, ou 10 km au-dessus du sol de la planète en question. Ils prennent la photo, et ils envoient, comme toutes les photos, vous savez, c'est un ensemble de points lumineux, ils envoient chaque point lumineux, et le programme ordinateur de la NASA, qui est un programme extrêmement précis et très très doué, en fonction justement des zones de lumière, de l'endroit, des circonstances stellaires, etc., décode chaque point et discerne ce qui dans chaque point vient d'une lumière extérieure, comme par exemple la lumière du soleil du coin, de l'ombre, de la couleur, et ce qui vient du relief, parce que vous savez très bien, pour ceux qui sont peintres, que lorsque vous prenez une photo, ce qui est plus près est plus foncé que ce qui est loin. Si vous regardez le paysage, par exemple, vous voyez que la ligne de front plus proche est plus sombre et la ligne de fond est plus claire. Donc vous avez, il retire, j'allais dire, de chaque point, ce qui vient uniquement de la distance. Et l'ordinateur Vectorial Point Analyzer, 8, pardon, Vectorial Point 8 Analyzer, les points vectoriels, hein, VP8 Analyzer, c'est très très... Il faut sortir ça, ça fait mieux. VP8. Parce que VP8, ça fait un peu représentant, mais le VP...
Le médicament, vous savez.
Alors, Vectorial Point Analyzer, ça fait plus NASA, vous comprenez alors. Il dégage uniquement ce qui vient de la distance, de sorte que l'ordinateur dégueule la carte en relief. C'est terme technique. L'ordinateur dégueule donc, c'est terme technique, dégueule la carte en relief. Et vous avez donc, à partir donc des photos qui sont prises, la carte en relief. Donc ils se sont dit, absolument merveilleux, c'est extraordinaire, puisque à la suite de toutes leurs analyses spectrographiques, ils se sont rendus compte que l'ossuaire, évidemment, ne venait pas du tout, ne pouvait pas venir, impossiblement impossible, d'un contact entre le linge et la peau, mais que c'était donc une espèce d'impression qui venait de la lumière. Et ils se sont dit, c'était probablement une lumière qui venait de l'extérieur, peut-être qui à travers le voile, et par un phénomène de mire, etc., avait arrivé justement à, de manière très très diffuse, à donner, une marque photographique sur le sphère. Et ils se sont dit que si c'était ça, c'était une confirmation de la seule possibilité qu'ils avaient, c'était ça. Donc ils ont dit, on va voir par confirmation en analysant au Vectorial Point Analyzer. Et normalement, vous auriez eu le front du Christ comme ça, le nez comme ça, la bouche comme ça, le menton, etc. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, le nez, le menton. Et ils l'ont passé au Vectorial Point. Et ils pensaient avoir effectivement ça. Ils ont en effet eu une image en relief, ce qui ne les a pas surpris. Mais ce qui les a surpris et qui a fait la véritable révolution à la NASA, c'est qu'au lieu d'avoir le relief comme ça, ils ont eu le relief comme ça à l'envers. Ce qui prouve de la manière la plus patente qui soit que l'origine de la lumière, l'origine ne venait pas donc de l'extérieur du sphère, mais de l'intérieur du corps, et ils ont calculé, puisque c'est justement ça le travail du programme ordinateur, ils ont calculé sous quel mode précisément cette lumière s'est réfléchie, et elle s'est réfléchie donc d'une manière infinitésimale au point de vue de temps, je crois que c'est 1/100 millième de seconde, si je ne me rappelle plus exactement, et ils ont calculé donc le degré de kilowatt chaleur à quel ça correspond. C'est pour ça qu'on parle de flash, d'une fulguration similaire, analogue à une fulguration d'origine nucléaire, mais pas tout à fait comme ça quand même. En fait, on a bien l'impression donc d'un cadavre humain, parce qu'il y a aussi la preuve absolue que c'était un cadavre, dans les analyses. Donc on sait que c'est un cadavre, on sait aussi qu'il y a eu un flash qui est sorti du cadavre de manière uniforme de tous les points du corps, d'une manière fulgurante, et que ça n'a pas pu durer plus que 1 ou 200 millièmes de seconde. Si ça avait duré davantage, ça aurait brûlé, et ça n'a pas brûlé, ça n'a pas carbonisé. Ce qui correspond assez bien, j'allais dire, à ce qu'on n'a pas besoin de ça, nous, puisqu'on sait bien qu'il est ressuscité. Ça ne prouve pas la résurrection. Il faut faire très attention. Ça ne prouve pas la résurrection. Mais ça la confirme, c'est différent. Parce qu'on ne peut pas prouver la résurrection par la mode scientifique. On peut simplement voir que la résurrection a laissé une trace et que la résurrection peut être une explication à cette trace. Pour un scientifique, il ne va pas affirmer la résurrection à partir de là. Il va affirmer qu'il y a un phénomène unique, inexplicable, jamais vu, inexpérimentable, impossible d'expérimenter. Parce que on va considérer au point de vue scientifique que ce serait la résurrection si on assiste et que on voit un deuxième. Il faut au moins deux pour arriver à une vérité dite scientifique. Parce qu'une fois qu'on a découvert un phénomène, on ne peut établir la loi, c'est-à-dire dire que c'est scientifique qu'à partir du moment où j'ai une vérification qui infirme ou qui confirme. Or, il est impossible, évidemment, d'avoir une vérification puisque nous n'avons pas le suaire de la Vierge Marie, n'est-ce pas ? Le suaire de l'Immaculée, ce serait merveilleux d'avoir le suaire de l'Immaculée. De toute façon, si on avait le suaire de l'Immaculée, il aurait été entièrement blanc, alors ça n'aurait rien donné du tout. Ah ben c'est tout, voilà pour le suaire. Voilà ça. Et pour la petite histoire, on m'a fait passer un document où quelqu'un avait enregistré un passage à la radio, je ne sais plus à quelle radio. Est-ce que c'est Radio Vatican ou Radio, je ne sais plus, une radio, non, je ne sais plus. Ou à peu près 6 mois avant l'événement du suaire, il y a eu un grand convent de la loge de Rome qui ont décidé de catapulter le suaire. Et donc il fallait faire en sorte, bien sûr, que, puisqu'ils savaient à l'avance que la datation donnerait 1290, comme je viens de vous l'expliquer. Donc ils ont préparé donc, l'ensemble des responsables, des centres de recherche, etc., qui font partie des loges. Ils les ont préparés à ça, avec, en demandant, je n'ai pas la phrase exacte, des mesures de rétorsion absolument exemplaires pour ceux qui ne confirmeraient pas. Et le blocage immédiat de toute promotion et même éventuellement l'expulsion pour tous ceux qui ne confirmeraient pas dans le monde le résultat du laboratoire. Et c'est passé à la radio. Oh oui, je dois l'avoir chez moi.
Je signale que les petites sœurs de Bethléem fabriquent des petits carrés, je ne sais pas comment expliquer, blancs, avec le Saint-Suaire en relief. Et entre autres, c'est très utile pour nos frères aveugles, parce qu'ils peuvent palper le relief du Saint-Suaire. Alors, il y en a un qui se balade quelque part dans le bus, ici. Donc, si vous le trouvez, parce que je l'avais en poche tout à l'heure pour vous le montrer, et il a disparu de ma poche, mystérieusement. Ah, c'est quand j'ai plongé. Donc, si vous retrouvez... ce petit... c'est petit comme ça. Non, c'est en relief. C'est... voilà. C'est un petit bloc, une espèce de matière synthétique, une espèce de marbre, apparence de marbre.
J'aurais une question peut-être un peu provocante. Quelles seraient les intentions de Jésus pour nous avoir laissé ce suaire?
Les intentions de Jésus?
Oui, c'est génial. Pourquoi nous a-t-il laissé ce suaire?
Pourquoi Jésus nous a-t-il laissé ce suaire? Tu as une idée, toi?
Vas-y,
je comprends bien parce que j'ai rien.
Mais moi, ce qui me frappe énormément, c'est que, vu que ce n'est qu'avec, en fait, la découverte de la photographie au siècle dernier qu'on a pu vraiment voir ce visage tel que nous le voyons, puisqu'il fallait se procéder pour arriver au négatif, moi je pense que c'est vraiment un des signes de sa présence historique qu'il a voulu réserver pour notre époque scientifique et technologique. Et c'est vraiment comme une délicatesse de Jésus à une époque où on veut tout expliquer, voir, toucher, contrôler, vérifier, et bien qu'il ait voulu que ce qui ait touché son corps, en fait, ne puisse être vraiment manifesté à l'échelle où cela a été qu'à notre époque scientifique. Donc c'est vraiment destiné à notre temps.
Je vais vous expliquer maintenant, et ça m'est revenu la réponse. Son explication, mais justement, c'est lui qui m'y a fait, qui me branche sur la réponse, en effet, c'est la réponse qu'il fallait donner. Mais je vais vous l'expliquer sur le plan théologique maintenant. En plan théologique, c'est-à-dire plus universel que ça. Là, ce que je vous disais également tout à l'heure, ça ne donne pas la preuve de la résurrection. Ça donne la preuve de l'existence de quelque chose dont nous savons que c'est la résurrection. Vous voyez ? Exactement de la même manière que nous pouvons arriver par voie démonstrative absolument irrenversable à l'existence du Créateur, de l'être premier qui est Créateur, que nous appelons Dieu. On peut arriver à démontrer l'existence de l'être premier Créateur, on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, c'est impossible. Mais on peut démontrer l'existence de l'être premier par voie démonstrative, irréversible, c'est l'être premier qui est le Créateur. Même des gens qui sont comme Feuerbach, Sartre, des gens philosophes complètement athées, Hegel, Kant, tout ça, sont obligés d'accepter ça. Et d'ailleurs, ça explique aussi les sept idéologies athées, qui sont obligées de diviniser l'homme dans une de ses dimensions, et de faire que l'homme, c'est Dieu, parce que c'est l'absolu, c'est l'être premier, éternel, ayant toutes les caractéristiques de ce que nous attribuons au Créateur, parce qu'au point de vue philosophique, on arrive à la démonstration de l'existence de cet être premier. Maintenant, pour savoir quel est cet être premier, c'est tout à fait autre chose. Nous, on sait que c'est Dieu, et d'autres vont dire par une voie, une espèce de culbute absolument phénoménale, et puis même pas très loyale, que cet être premier Créateur, c'est l'homme. Bon, alors, vous voyez, ça revient au point de vue théologique à dire ceci, c'est que pour tous les mystères dans lesquels nous sommes obligés de croire par la foi, la résurrection, l'Immaculée Conception, l'incarnation, l'existence de Dieu, etc., 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 pour tous les grands mystères, Dieu ne veut pas que nous croyions comme la foi du charbonnier, en disant « Dieu l'a dit, et puis c'est tout, il faut le croire, sans qu'il y ait, de notre part, une possibilité de connaître de manière absolument démonstrative l'existence de ce mystère. » Ou un signe de crédibilité largement suffisant pour confirmer scientifiquement que ce mystère, non pas le mystère, mais que ce mystère existe. Exemple. La résurrection, ça va être, évidemment, nous avons ici, là, on touche quelque chose, absolument par voie scientifique, et on touche le fait qu'il existe, du point de vue de l'être, si vous voulez, il y a quelque chose, bon, qui montre qu'il n'y a peut-être pas eu la résurrection, mais qu'il y a eu l'existence de quelque chose, à partir d'un cadavre, de quelque chose de vital. Ça ne correspond pas du tout au mystère de la résurrection. Puis pour nous, le mystère de la résurrection, c'est que Dieu, j'allais dire, le Verbe s'est ressuscité lui-même et est rentré dans l'omniprésence et dans la gloire du Saint-Esprit et qu'il spire l'Esprit Saint à partir de là. Et qu'il aspire l'ensemble de la création. Mais ça, au point de vue théologique, évidemment, ce point de vue scientifique n'atteint pas le mystère de la résurrection. Mais l'existence d'un phénomène qui correspond à ce que nous croyons au point de vue de la résurrection. Vous voyez ? Bon, l'incarnation. Alors, il faudrait regarder tous les mystères et voir justement tous les signes de crédibilité pour lesquels nous avons tous les mystères de la foi, pour lesquels nous avons un signe de crédibilité relativement très difficile à renverser parce que justement on a un critère, l'Eucharistie, vous voyez, vous avez pour l'Eucharistie, le El Sebrero, c'est tout à fait typique, vous voyez, vous avez ici la consécration du corps et du sang de Jésus dans le pain et le vin, à l'Anciano, et c'est quand même assez extraordinaire de voir que ça s'était transformé, et à El Sebrero, ça s'est transformé donc, ce qu'on disait, ce que je vous expliquais, en caillot, en petite boule, de caillot de sang, cinq petites boules de caillot de sang, pesant chacune, alors je ne me rappelle plus malheureusement, disons, supposons 7 grammes, n'est-ce pas, bon, chacune, non, peut-être pas autant, parce que 7 grammes c'est assez lourd quand même, mais enfin, lorsque vous les mettiez, siècle après siècle, il y avait une réunion d'experts qui regardaient le sang caillé, en caillot, du miracle eucharistique. Vous le mettiez donc sur la balance, vous pesiez une boule, ça faisait, elle pesait toutes le même poids. Et si vous les mettez tous ensemble, ça pesait aussi le même poids. Donc vous en mettez une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept, miraculeusement la balance mettait le même poids. Donc vous aviez à ce moment-là l'existence tangible, si vous voulez, d'un phénomène qui correspondait, ça ne vous prouvait pas du tout la transsubstantiation. On ne peut pas démontrer la transsubstantiation. On ne peut pas démontrer que c'est le corps de Jésus. Mais on a, vous voyez, la différence. Bon, l'incarnation, il n'y a qu'à se limiter à ces trois-là, mais on pourrait faire la litanie. Vous savez, on doit croire en l'incarnation, on doit croire que Dieu s'est fait homme. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, dans la petite maison de Nazareth, alors je pense que vous connaissez quand même le mystère. Le signe de crédibilité correspondant à l'incarnation. Personne ne le connaît ? Si, hein ? Non. L'incarnation. Le signe de crédibilité semblable à ce qu'on vient de voir pour le suaire ou le miracle eucharistique. Mais c'est la maison de Lorette, en Italie. La maison de Lorette en Italie, c'est... je ne me rappelle plus exactement de la date, mais lorsque les musulmans se sont emparés de la Terre Sainte, je ne sais plus exactement quel siècle, Monseigneur sans doute n'a pas dû considérer que ce soit digne de l'Immaculée qu'elle reste dans une terre islamique. Alors, et la maison de son incarnation. Alors, voilà ce qui s'est passé. Il a scié, comme par un espèce de rayon laser, la maison de la Vierge de Nazareth, la maison de l'Annonciation, qui était fabriquée avec les pierres de la carrière à côté. C'est le seul endroit où on trouve des pierres de ce genre, blanches avec des veines rouges, tout à fait typiques. Cimentées, bien sûr, avec une espèce de ciment local, donc avec plein de pollen de fleurs et compagnie. La maison a été transportée par les anges, enfin transportée en tout cas, comme ça, d'un seul coup, et elle s'est retrouvée de l'autre côté de l'Adriatique, la mer Adriatique, donc l'actuelle, je suppose, Yougoslavie. Je suis nul en géographie, je suppose que c'est la Yougoslavie qui est de l'autre côté. Et un jour, donc, le laboureur arrivait avec sa vache, son bœuf, sa charrue, dit il y avait une maison au milieu du chemin. Hein. Du jour au lendemain, il y avait la maison au bout du chemin qui était posée, comme ça, sur le sol, de manière absolument... Alors on a fait venir toutes les autorités, on s'est demandé qu'est-ce qui se passait, c'est resté là pendant 15 jours, 3 mois, etc. Ça s'est bagarré, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est invraisemblable, qu'est-ce que c'est, comment c'est venu ici. Et il y a eu de telles bagarres, que il a commencé à y avoir un petit peu une petite guéguerre locale. On est à la frontière déjà ? Frontière espagnole. Parce que ça, c'est très très drôle, parce que il y a eu du mouvement, si vous voulez, qui s'est produit. Il a commencé à y avoir une petite guerre locale, les savants sont venus en disant c'est inexplicable, ça a fait du foin, etc. On est devenu agent de la capitale. Ça faisait vraiment un bien, c'est pas possible. Et le Seigneur n'aimait pas tellement ça, qu'on fasse tellement de foin au point de vue humain face à un signe qui était divin. Parce que quand même. Alors du coup, la maison a disparu, elle a été transportée une deuxième fois. De l'autre côté de l'Adriatique, sur une terre italienne. Et là, elle est tombée sur un terrain appartenant à deux frères, pareil, même système, même phénomène, même surprise, même réaction. Et là, ça a provoqué une lutte entre les deux frères, qui se sont dit, c'est moi le propriétaire du terrain, non, c'est moi, etc. Alors du coup, le Seigneur a dit, je ne suis pas content du tout. Il a retransporté, et tout ceci, évidemment, parfaitement patenté par les experts locaux, les notaires, parce que vous savez, tout est noté, etc., avec concours de peuple et compagnie, bien sûr. Bon. Alors, ça a été à nouveau transporté, ça a été donc transporté, en fait, en tout, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et la 4e fois, elle a été transportée, là où elle est actuellement, à Lorette, Notre-Dame de Lorette, en Italie. Et les Italiens montent à Notre-Dame de Lorette. Le pape y va souvent, très souvent. C'est vraiment le sanctuaire, parce que c'est la maison où le Verbe s'est incarné dans le sein de la Vierge. Et c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on voit les Italiens qui prennent leur mouchoir, qui touchent, et puis ils gardent, ils embrassent partout. C'est très, 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 très chouette de regarder ça. Mais enfin, ce qui est absolument évident, c'est qu'on a dit, on disait il y a 50 ans, notamment, il y a 30 ans, on disait c'est une légende. On disait c'est une légende. Mais depuis du temps du Moyen Âge, du temps de la Renaissance, on ne disait pas c'est une légende, parce que quand même, on avait quand même encore en mémoire tous ces phénomènes, j'allais dire, écrits, constatés par le peuple, par des experts, etc. Parce que les experts, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Et non plus que les actes notariés, etc. Bien sûr. Surtout dans les époques de l'Inquisition et compagnie, vous comprenez bien qu'ils ont fait venir des gens pour voir si c'était pas un phénomène, c'est pas magique ou diabolique, et complètement. Bref. Donc c'est parfaitement regardé, analysé sous toutes les coutures. Mais enfin, on a quand même dit, c'est une légende. Alors du coup, ils ont fait les mêmes analyses que sur le Suez. C'est là qu'ils ont découvert, c'était la même carrière, c'était les pollens de là-bas. Et Anne-Catherine Emmerich a donné, dans ses visions, des indications pour trouver l'endroit où était la maison de l'incarnation à Nazareth. Alors on a fouillé et on s'est aperçu en effet qu'il y avait une fondation qui était rasée et c'était les mêmes pierres, la même structure. Et bon, enfin voilà. Donc vous avez ici là, ça ne prouve pas l'incarnation, vous voyez bien. Mais ça prouve l'existence de quelque chose que nous appelons l'incarnation. C'est de la même manière que nous pouvons arriver à prouver l'existence d'un être premier, qui est le créateur, et nous l'appelons Dieu. Et vous voyez, vous comprenez bien que l'être premier, ça pourrait, qui est créateur, ça pourrait très bien être un Deus ex machina, qui n'est pas Dieu. Une espèce de zone intermédiaire qui est créateur et source de tout ce qui existe. Des murs, vous voyez, qui est lui-même une émanation intermédiaire. Après tout, pourquoi est-ce que le monde n'aurait pas été créé par une espèce d'ange absolument parfait, extrêmement puissant? Dieu aurait dit, allez, c'est toi que je charge de créer. Vous voyez? Nous, on sait que c'est Dieu, on le sait par la révélation. Donc voilà, donc ce que le Suaire nous apprend, voyez, c'est que Dieu ne veut pas que nous croyions quelque chose bêtement. Et il veut que nous saisissions à travers le mystère de la foi, le fait que ce mystère de la foi a un fondement dans la réalité que l'intelligence est parfaitement capable de toucher par ses propres forces, sans la grâce. ce que le Concile Vatican I a affirmé, et celui qui ne croit pas ça, a perdu la foi catholique, la foi divine catholique. C'est intéressant. Est-ce que vous avez compris ou c'est trop compliqué ce que je viens de raconter là? C'est dans la même ligne. Vous voyez, la Bible, l'Écriture sainte, est un porteur principal, l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est l'unique auteur de toute la Bible. Il est passé bien sûr par la médiation de prophètes, d'un inspiré différent, mais il y a un seul auteur pour chaque mot, chaque lettre, chaque iota, chaque point sur le i. Et une découverte absolument fulgurante a été faite. Vous, ceux qui ont lu Un Feu et Lumière récent, Ephraim en parle dans son éditorial, une découverte spectaculaire par trois universités différentes, une de Jérusalem, une à Tel Aviv, une à Harvard, aux États-Unis. Et ils ont découvert quelque chose d'absolument fabuleux, inouï. Sur la Bible. Ils se sont rendus compte que la Bible ne venait pas de l'homme. Et alors, c'est Bernard qui va vous distribuer peut-être ce document. Pardon ? J'ai dit quoi ? Ah, c'est son nom de famille, excusez-moi. C'est son nom de famille, Pascal Bernard, il s'appelle. Donc c'est Pascal qui va vous distribuer ce document. Peut-être, tu veux l'expliquer peut-être en deux mots de quoi il s'agit, hein, puisque on en est encore dans ce sujet là. Et après, on écoutera un adagio d'Albinoni pour faire la sieste.
Voilà. Alors, la découverte en fait se base sur le fait que les lettres hébreux, les lettres grecques ont à l'époque, puisque les chiffres arabes n'existaient pas, avait un correspondant numérique, c'est-à-dire la lettre alpha par exemple en grec donnait le chiffre 1. Hein? Alors ce qui s'est passé, c'est que la découverte dont parle le père Patrick a été faite au niveau de l'Ancien Testament, mais qu'il y a eu la même découverte qui a été faite au niveau du Nouveau Testament en grec, qui a été faite par un savant russe au siècle dernier, c'était au début du siècle je crois, qui s'appelle Panin ou Panini, enfin. Il a fait la même découverte lui aussi à partir de ce donné-là, c'est-à-dire en remplaçant toutes les lettres de l'alphabet par leur correspondant numérique. Ça donne en fait des pages de numéros, et dans ces pages de numéros, ils ont trouvé des structures mathématiques qui s'enchevêtraient, c'est-à-dire je ne vais pas vous expliquer tout, hein, mais c'est-à-dire que ça donne des combinaisons complètement incroyables et infaisables au niveau humain, pour un cerveau humain, puisque seuls les ordinateurs ont pu découvrir tout ça, hein. Donc il a fallu attendre aujourd'hui pour découvrir pour faire toutes ces découvertes. Grosso modo, je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous avez un texte de la Genèse ou un autre texte dans la Bible où vous avez le nom de, par exemple, je vous dis Abraham, c'est un exemple. Hein. Vous avez le nom d'Abraham qui revient, par exemple, un certain nombre de fois, c'est-à-dire selon une fréquence qu'on dit selon un chiffre sacré. Par exemple, on le voit 7 fois dans un texte. Ça, c'est déjà, on peut se dire, c'est faisable. Mettre dans quelques lignes, mettre 7 fois le même nom pour que ce passage ait un sens, c'est faisable. Il y a quand même une équipe de chercheurs qui a essayé de faire ça. Ils ont mis 6 mois, je crois, pour faire 10 lignes en mettant 3 séries de 7 noms dans le même passage pour faire quelque chose de cohérent. Hein. Bon, il y a ça, il y a donc la fréquence des noms, il y a aussi la fréquence au niveau des lettres. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les bases de 7, le 50, je crois que c'est le 50, il y a un autre chiffre, 50, et 26 qui est le chiffre additionné de Yahvé, enfin en hébreu, on les retrouve tout le temps, hein, c'est des fréquences, c'est toujours la même chose. À ça s'en rajoute la technique des lettres sautées, c'est-à-dire que entre une lettre et une autre, il y a un certain nombre de chiffres, de lettres, pardon, dont la valeur numérique retrouve un des chiffres sacrés, c'est-à-dire 7, 50 ou 26. Alors c'est-à-dire qu'on prend une lettre, on compte 26 par exemple, dans certains passages, on retrouve une deuxième lettre, on prend cette deuxième lettre, on compte 26, on reprend une autre lettre, et on trouve en filigrane dans tout le texte le nom par exemple du personnage principal cité dans le passage. Voilà, on le retrouve, et on le retrouve toujours selon une base de 7, selon une base, bon, etc. Hein? Tout ça, ça se rajoute dans, au nombre de fréquences des mots, au nombre de, aux fréquences au niveau des lettres, etc., des valeurs des lettres elles-mêmes. Ce qui fait que, bon, il n'y a pas que ça, hein. Plus on creuse, plus on trouve, il y a plein de structures mathématiques qui s'enchevêtrent totalement, ouais, jusqu'à 60. Et ce qui fait que c'est complètement incroyable, et que surtout, ce qui est aussi incroyable, c'est que dans toute l'histoire de l'écriture, ces structures n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Ce qui fait bien dire que c'est toujours le même auteur qui est à l'origine de ces textes. Puisque c'est toujours, je veux dire, du début jusqu'à la fin, c'est toujours les mêmes structures qu'on retrouve, toujours les mêmes choses. Ancien et Nouveau Testament, hein, mais la recherche sur le Nouveau Testament a été faite un peu avant, hein, par un chercheur russe. Et donc c'est complètement incroyable. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque auteur, par exemple des évangiles comme Luc, Thomas, etc., bien qu'on retrouve cette structure, générale, ont une structure individuelle. C'est-à-dire qu'il y a une marque dans le texte qui montre bien que ce texte est écrit par Luc et que c'est pas Marc qui l'a écrit. C'est-à-dire qu'on retrouve une fréquence aussi selon le personnage. Mais c'est surajouté, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça prouve que bon, mais Dieu, bon, c'est l'Esprit Saint c'est Dieu qui parle dans le texte, mais en même temps, ça prouve que Dieu a bien montré que dans l'être humain lui-même, il y avait quelque chose pour lui qui était unique, quoi. L'être humain est quelque chose d'unique. C'est pour ça qu'il a permis qu'il y ait une empreinte individuelle dans chaque texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il respecte les deux choses, quoi. Voilà. Bon, mais je vais vous passer un texte là-dessus, donc vous allez pouvoir le lire. Il y a les références en hébreu à côté. Bon, c'est pas évident, mais enfin, ça donne déjà une petite idée. Si vous connaissez l'hébreu, c'est déjà bien, quoi. Très facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont essayé d'enlever, par exemple, dans un texte une lettre, en alphabet grec, en alphabet hébreu, par exemple. Et dès qu'on enlève une lettre, ça chamboule tout et c'est impossible. On retrouve plus du tout les mêmes structures. C'est pas possible. Ils ont aussi fait des études sur des anciens textes grecs. Sur les auteurs comme celui qui a fait Homère, etc. Vous voyez, je ne sais plus comment je me suis reçu.
Je vous donne un exemple pour vous montrer à quel point c'est extraordinaire. La Genèse. Premier chapitre de la Genèse, 7 paragraphes. Vous voyez, on prend simplement premier chiffre sacré 7, deuxième chiffre sacré 26, troisième 50. Donc, prenons uniquement le 7. 7 paragraphes. Le nombre de lettres multiples de 7 pour chaque paragraphe. Le nombre de verbes aimer, créer multiples de 7. Le nombre de noms communs multiples de 7. Le nombre de noms de personnes, multiples de 7. Le nombre, le poids numérique de l'ensemble du texte, si on rajoute le poids numérique de toutes les lettres, multiples de 7. La rythmique du retour des multiples de 7, multiples de 7. Vous prenez ensuite, vous pouvez aussi le prendre, par exemple, en lisant le texte en code de 7, ce que tu disais. En hébreu, c'est Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, dans le principe, bara créa Elohim, Dieu. Hein. Au commencement, Dieu créa. Donc, vous laissez tomber les 6 premières lettres et vous prenez seulement la 7e. Le Bereshit. Vous laissez tomber les 6 suivantes, bara Elohim. Et vous prenez him. Et vous continuez comme ça. Vous voyez, T, H, et vous obtenez une nouvelle phrase. Si vous prenez après, on peut le faire aussi en code de 7 en remontant à l'envers pour avoir une nouvelle phrase. Vous le faites en code de 26, quand on fait en code de 26, c'est-à-dire je laisse tomber 25 lettres, je prends une, je laisse tomber les 25, j'ai le thème du livre, j'ai le thème du passage, qui est évidemment impossible à une intelligence créée de faire ça. D'où, et ceci du début jusqu'à la fin. Et vous enlevez un i au chapitre n'importe lequel, au chapitre, par exemple, 17 du Deutéronome, vous enlevez un T, tout s'écroule. C'est inouï. C'est inouï. C'est une découverte spectaculaire. Donc, oui, c'est très, très récent. Il a fait 5 ans de recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Parce que c'est une université juive qui l'a découverte, une université rabbinique à Jérusalem, et en même temps qu'une autre équipe de chercheurs à l'université de Tel Aviv, qui n'est pas du tout religieuse, justement, qui est très très laïque, l'université de Tel Aviv. Or, il ne faut pas oublier qu'en Israël, la religion israélite est religion d'État. Et ils ont découvert à travers ces structures, parce que vous comprenez bien que tout oriente sur le Christ. Et le Nouveau Testament répond exactement aux mêmes critères, au carré. C'est très gênant, au point de vue politique, bien sûr. Et par conséquent, sans compter bien sûr qu'il y a encore des découvertes subliminaires tout à fait extraordinaires, dont on ne connaît absolument pas la teneur, semble-t-il, probablement, l'inscription du rythme de l'histoire à travers les textes de la Bible. L'histoire que nous avons vécue, mais qui n'avait pas encore été vécue. Je donne un exemple. La loi a été donnée à Moïse sur le Sinaï, et vous savez que les Juifs avaient 613 préceptes. Nous, avec 13, on a déjà du mal à s'en sortir. Nos 10 commandements, les 2 du Christ et celui du Père. On a du mal à s'en sortir. Alors eux, 613 préceptes, vous voyez ça, c'est quelque chose. Alors, parmi les préceptes, il y avait le précepte du Lévira. Le précepte du Lévira est le suivant. Si ton frère meurt, exactement, il y a la fameuse histoire de Ruth et de Boaz, qui fait l'objet de tout le livre de Ruth, qui est un seul livre à lui tout seul. Vous avez l'évangile de Saint Jean, vous avez les proverbes, Cantique des Cantiques, la Genèse, et vous avez le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est le livre où on voit l'accomplissement pratique, l'exemple pratique de la mise en pratique de ce précepte du Lévira. Où de fait, elle se marie en effet avec Boaz, sur les conseils de Noémie, je crois, qui était sa belle-mère, sur les conseils de Noémie, en raison de ce précepte. Donc lorsqu'on prend... Or, il se trouve que ceci était absolument capital dans les desseins de la sagesse divine, puisque c'est par ce moyen-là que le Messie a pu arriver, puisqu'il était prévu dans la sagesse divine que Ruth fasse partie de l'ascendance du Christ. Et donc, si vous voulez, le précepte du Lévira avait été donné à Dieu par Dieu à Moïse pour qu'il puisse y avoir... Cette rentrée, ouais, très particulière du Christ à travers ce précepte-là pour qu'il s'accomplisse en Ruth et en Boaz à travers l'obéissance à la mère du mari. Tout ça a une signification très, très, très profonde. Et Ruth n'était pas juive, hein, donc bien sûr. Mais à travers l'obéissance à la mère du mari. C'est une signification très, très profonde. Et lorsque... Est-ce que vous avez d'ailleurs dans la généalogie de l'Évangile? Bref, vous voyez le lien extraordinaire. Eh bien, lorsque on lit, or le livre de Ruth a été écrit 7 siècles après qu'ait été écrit les Deutéronome. À peu près, je dis 7 siècles, c'est peut-être 5 ou je ne sais pas exactement, hein, malheureusement. Mais je ne l'ai pas dans la tête. Mais très longtemps après. Et si on lit justement le passage où Moïse donne le précepte, vous le prenez en code de 26, je crois. Vous prenez en code de 26, vous laissez tomber donc 25 lettres, vous prenez, et vous avez, sur le passage où il explique ce précepte du Lévira, vous avez Ruth Elohim, Ruth Elohim. Autrement dit, vous voyez, ce précepte a été donné pour Ruth, par Dieu, pour que le Messie puisse venir. Donc, il y a toutes sortes d'indications très intéressantes, mais il y a aussi, par une autre méthode, un autre phénomène, qui est le phénomène donc de la lecture d'une histoire à venir, qui a l'air d'être donnée. mais semble-t-il d'une manière telle qu'on ne puisse pas comprendre, j'allais dire à l'avance, la chose. Mais enfin, on a quand même écrit explicitement, j'allais dire, ce que nous avons connu, et qu'on peut voir parce que nous l'avons vécu. Mais sinon, non. Vous voyez. On ne peut pas voir, par exemple, à partir de là, ce qui va se passer. Heureusement, bien sûr, ce serait contraire, d'ailleurs, à la sagesse divine. Donc, vous voyez, c'est une découverte absolument prodigieuse.